Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Il est 22h32 sur votre radio, sur Europe 1. Et bien évidemment, vous le savez, vous qui êtes là et qui êtes fidèle à cette libre antenne, nous sommes ensemble pendant 2h30, chers amis. 2h30 durant lesquelles vous allez pouvoir nous appeler au 3921. Tous les petits problèmes techniques que nous avons eu hier soir sont résolus et nous nous en excusons bien évidemment auprès de vous encore. Tout est OK pour que cette libre antenne se déroule de la meilleure manière qui soit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant chez vous, tranquille, à vaquer à vos occupations, à peut-être être déjà allongé. Qui sait ? En tout cas, nous sommes ensemble et vous allez pouvoir appeler au 3921 si vous le désirez. 3921, 50 centimes d'euros la minute. 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis toujours notre adresse mail libreantenne@europe1.fr ou notre groupe de parole sur Facebook, Sabine Marin, Olivier Delacroix, la Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos courriers aussi en privé à Natacha et à Florian qui se font un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà, j'espère que tout est bien, que vous avez tous les renseignements qu'il vous faut. Maintenant, votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Alexandra au 3921. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, quel âge avez-vous Alexandra et d'où nous appelez-vous ?
J'ai bientôt 43 normalement, dans quelques mois, et je vous appelle de Bretagne, du Finistère.
D'accord. Quel temps fait-il dans le Finistère là ?
Bah, très beau, comme d'habitude.
Donc, vous voulez dire un petit crachat qui pénètre bien?
C'est ça, oui, oui.
Très bien.
Non, bon, donc, c'est pas terrible en ce moment, mais après, voilà, c'est l'hiver, on va pas se plaindre.
Bon, très bien.
Il y a pire ailleurs.
Bon, et qu'est-ce qui vous amène, ma chère Alexandra?
Alors, je voulais, en fait, apporter mon témoignage, ou mon expérience, plutôt, par rapport à une auditrice que vous avez eue, il me semble. J'avais pris le témoignage en cours. Je crois qu'elle s'appelait Madeleine, mais j'ai un doute. Je vous avais déjà contacté pour moi-même, il y a quelque temps, où vous aviez été, finalement, d'un grand secours.
Tant mieux.
je tenais à le préciser. Et puis, du coup, là, la dernière fois, oui, le témoignage, oui, je crois que c'est Madeleine qui vous parlait de son compagnon qui était alcoolique.
Oui, 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 complètement.
Du moins qu'elle savait plus où se positionner, quoi faire et compagnie. Et en fait, moi, je voulais apporter mon témoignage par rapport à ma vie, en fait, notamment mon père, que j'ai toujours connu, je pense, un verre à la main. Et qui a fait des cures et que j'ai avec qui j'avais coupé les ponts, avec qui j'ai renoué, avec qui j'ai fait plein de choses en fait, et finalement à part perdre mon temps et des années et puis être malheureuse et triste,
il ne s'est pas passé grand-chose de plus entre vous que des moments ratés, je suppose.
Oui ou non, bah, plein, tout se rend plein. Plus d'être alcoolique, il était violent. Et en fait, je vous dis, après, il y a eu des coupures, hein, forcément, parce que je me suis sauvée très vite de la maison. La première cure de désintox que mon père a fait, en fait, j'avais 17 ans et demi. C'était la première fois parce que il était allé voir le médecin et en fait c'était de pire en pire, les analyses et compagnie, enfin tous les problèmes de santé que ça peut engendrer.
Oui.
Donc il avait fait admettre à mon père de partir en cure. Donc j'avais 17 ans et demi, et après, en fait, ça a été à chaque fois, tous les 3, 6 mois, Enfin, c'était presque devenu un abonnement. Un abonnement, quoi.
Que faisait-il dans la vie, votre papa ?
Je préfère pas le dire.
D'accord.
Mais en tout cas, c'était une profession où il avait quand même une arme dans les mains.
D'accord. Bon, on suppose qu'en tout cas que les responsabilités qui étaient les siennes n'allaient pas vraiment avec cet alcoolisme. C'était plutôt dangereux qu'il ait une arme dans les mains, non ?
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais tout à fait. Bah, tout à fait. De toute façon, moi, à partir du moment où après j'ai grandi et commencé à réfléchir par moi-même, je me suis dit, mais waouh.
Quelle était, à votre avis, la cause profonde de cet alcoolisme ? Parce que
je ne sais pas.
Vous ne savez pas parce que vous dites, bon, on devine la profession de votre père. Or, j'ai vu un très bon film il y a quelques jours. J'ai vu un très bon film avec Omar Sy et Virginie Efira qui s'appelle Police. Et je ne me doutais pas que ce film était aussi bon, mais il relate la vie des policiers en tenue. Et je trouve que ce film est vraiment empreint d'une réalité hein, que vivent les policiers et d'une grande solitude dans leur métier, d'une grande solitude parce que souvent ce métier et les horaires et aussi tout ce qu'ils font dans la journée impactent énormément le quotidien, leur quotidien et leur couple aussi. Souvent, il y a des... On le sait, il y a des...
Tout comme les militaires, tout comme ces professions, où, en fait, on ne peut pas trop en dire, en fait, à la personne qui nous accompagne. Et puis après, il suffit d'avoir fait un mauvais choix et tout ça engendre. Mais juste Olivier, il n'était pas policier.
D'accord. Mais
ça faisait quand même partie de la sécurité des gens, de plein de choses. Mais après,
je pense que ces horaires,
ça s'est toujours bien passé, on va dire, vis-à-vis de son travail. Ils se sont rendus compte, mais comme mon père était quelqu'un de très rigoureux dans le travail,
Est-ce que ses horaires ont impacté sa famille ? Est-ce que son métier a impacté sa famille ?
Non, du tout. Non, ça allait. Non, ça allait. Après, vous me demandiez la cause de son alcoolisme. Moi, j'ai cherché à comprendre, en fait. Après, évidemment, quand j'étais plus mature, adulte, mais c'est vrai que déjà, il y avait mon pépé, en fait, le père de mon père, qui était apparemment un grand alcoolique, mais je me suis pas rendu compte parce qu'il est décédé quand j'étais trop jeune. J'ai des souvenirs, mais pas de ça forcément.
Oui, mais enfin, on peut penser donc que l'alcoolisme de votre père était dû, enfin déjà, à l'alcoolisme de votre grand-père, non ?
Tout à fait, oui, apparemment, oui, ça se retranscrit aussi un petit peu dans les gènes, mais sans doute, mais après, pour moi, c'est pas une excuse.
Non, bien évidemment.
Voilà, donc après, oui, effectivement, il y a peut-être des choses comment les parents fument, en fait. Les enfants ont des chances de fumer, donc c'est pas... Enfin, je sais pas, il y a des choix qui se font dans la vie, et évidemment, on n'a pas la même mentalité qu'il y avait il y a 40 ans ou il y a 50 ans, quand mon père a décidé de faire des enfants, mais... Mais je voulais juste dire que... par rapport au témoignage, et vous avez très bien dit, d'ailleurs, Olivier, en disant que de toute façon, à partir du moment où la personne ne veut pas s'en sortir, ben ça sert à rien.
Non, ça, la première, de toute façon, vous savez, les cures de désintoxication sont efficaces. Il y a deux choses très différentes dans ces addictions et je mets l'alcool dans le même panier que les drogues. Il faut d'abord qu'il y ait la volonté de s'en sortir.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'addiction et qui partent en cure en pensant que la cure va leur apporter cette sobriété.
Délivrance.
Ça n'est pas la cure qui apporte la sobriété.
Non, je sais bien.
C'est d'abord la volonté de ces malades. Et ensuite, la cure va venir renforcer cette volonté.
Elle est,
cette cure, elle est destinée à leur apporter de la force, de l'énergie, du sens aussi, qu'ils comprennent, qu'ils aillent chercher ce pourquoi ils se droguent ou pourquoi ils boivent comme ça.
Je suis d'accord avec vous, Olivier, avec tout ça. Le truc, c'est que à l'époque, je vous dis, moi, voilà, quand il a entamé sa première cure, il avait 17 ans et demi. J'avais 17 ans et demi, pardon.
Oui.
Et puis, c'est parce que le médecin lui avait dit que ça commençait à sortir pas bon vis-à-vis de sa santé. C'est ça, en fait, qui l'a poussé à...
Oui. Il est décédé,
après,
là il est décédé ou il est toujours en vie?
Non, pas encore. Pas encore, non.
Bah,
non,
c'est
mais
bien,
apparemment, maintenant, il ne boit plus.
Il ne boit plus.
Oui, tant mieux. Bah,
d'accord.
Mais je n'ai plus de contact, hein. J'ai coupé les ponts. Donc, je vous résume brièvement. Donc, en fait, voilà, ma vie s'est passée comme ça avec ce père. J'ai fui très vite la maison. Et en fait, voilà, quand je n'étais pas forcément au meilleur de ma vie, ma mère, du jour au lendemain, en fait, a quitté mon père. Sans parler ma sœur et à moi, alors qu'on avait quand même un certain âge et une mère de famille, enfin bref. Et en fait, mon père, à l'époque, quand ma mère a quitté, quand ma mère en fait, a claqué la porte, mon père était sobre. Donc moi avec on va dire mes soucis personnels et puis ça et puis ma mère on n'est pas parlé avant ou prévenu voilà je suis allée voir mon père hein, c'est lui qui me l'a annoncé d'ailleurs et en fait après j'ai récupéré mon père à la petite cuillère. Mais vraiment la petite cuillère, hein, parce que du coup, la sobriété, elle n'y était plus forcément.
Oui.
Et puis en fait, j'ai estimé qu'une enfant ne doit pas voir comme ça son parent. Peu importe, mais en tout cas, c'était pas mon rôle. C'était pas mon rôle à moi de voir ces choses-là parce que je sais très bien Olivier que vous avez une grande expérience dans tous les sens du terme mais voilà j'ai
une grande expérience.
Une grande expérience. Non, j'entends mais vous
j'ai
avez
une connaissance de tout
oui,
ça
pardon,
si vous
une
voulez.
Connaissance mais oui. Parce que vous vous intéressez aux gens, enfin voilà, enfin oui, pardon, excusez-moi, pas une grande expérience.
Non, mais parce que je peux le dire, je pense que tout le monde aura saisi que je connais très bien cette chose-là parce que je suis moi-même passé une période de ma vie difficile.
Tout à fait.
Par là, et donc oui. Je ne remercierai jamais assez les narcotiques anonymes, notamment. J'en parle souvent. Mais
je sais, mais
parce que ça a été pour moi une grâce en fait quelque chose qui m'a vraiment réconcilié d'abord avec moi et puis ensuite qui m'a montré la voie de la lumière mais quand je dis de la lumière c'est-à-dire de la lumière de la vie récupérer ma vie avoir le contact, à nouveau avoir le contact de le contact, pardonnez-moi, la maîtrise de ma vie. Et donc, quand je dis souvent ici que la vie est belle, c'est que lorsqu'on est passé par cette une addiction, quelle qu'elle soit, elle peut être au jeu aussi, c'est quelque chose qui vous emmène, qui vous obsède. Il n'y a plus que ça qui compte.
Oui.
Et donc, tout autour de vous se détériore. Tout autour de vous se... se détériore et ne devient plus important. Donc c'est évidemment très très sérieux et très grave. Donc c'est ce pourquoi nous prenons du temps à chaque fois sur cette libre antenne pour inciter celles et ceux qui sont dans cette souffrance à aller vers les alcooliques anonymes, vers les narcotiques anonymes qui sont vraiment, je trouve, pour moi aujourd'hui, la première étape la plus efficace. Parce que celles et ceux qui rejoignent ces groupes de parole se retrouvent confrontés à leur vie, à eux, à travers la vie des autres. Et finalement s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas tout seuls à être dans ce cas-là. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas ces sous-gens, hein, ces sous-personnes. Parce que lorsqu'on se drogue, lorsqu'on boit, eh bien on a vite fait de se prendre pour un moins que rien et se répéter ça à longueur de temps.
Tout à fait.
Lorsque vous rejoignez ces groupes de parole, vous apercevez que vous rencontrez des gens de tout milieu, de toute génération, et qui ont ce point commun avec vous. Et ce qui est fantastique, donc, c'est de voir que à ce moment-là, on peut discuter avec eux, échanger, et c'est à partir de ce moment-là que on commence à entrevoir la possibilité de s'en sortir. De toute façon, la promesse qui vous est faite là, c'est que si vous arrêtez de vous droguer, si vous arrêtez de boire, de vous droguer, de cette addiction, la vie sera belle. Et je peux vous dire que c'est une réalité. C'est une réalité. La vie devient vraiment tellement
oui, tout à
plus
fait.
Facile.
Non, mais justement, Olivier, c'est pour ça qu'après, voilà, je, comme je vous dis, après, oui, je connais un peu votre parcours. Je vous ai découvert il y a longtemps et vous aviez eu, je pense, à l'époque, vous étiez un peu sur les réseaux. Et à l'époque, vous aviez eu la gentillesse de me répondre. Après la dernière fois, je vous ai appelé. Vous avez eu votre expérience. Et oui, j'admire votre. J'admire. Après, voilà, je me dis, vous êtes. Même si vous êtes une personnalité, en fait, vous n'hésitez pas à dire oui. À un moment donné, dans ma vie, voilà, j'ai fait de la merde. Excusez-moi de parler comme ça. Et puis, je m'en suis sortie parce qu'il y a des choses,
Et mais donc, vous savez, je n'estime pas avoir fait de la merde, comme vous dites, à une époque de ma vie, les épreuves de la vie m'ont amené dans une détresse totale.
Oui.
Et bien évidemment, ce sont des paradis, on les appelle les paradis artificiels, mais lorsque vous y touchez pour la première fois, ces paradis artificiels, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que ça va mieux ? Sauf que
c'est
vous êtes en train d'ouvrir la porte d'un enfer. Donc, mais je vous reprends sur faire de la merde parce que ça n'est absolument pas ça. On peut boire, on peut se droguer et être quelqu'un de voilà. Je pense qu'il faut tendre la main à toutes celles et ceux qui souffrent de ces addictions et surtout ne pas prendre ça pour un vice. Parce que la problématique aujourd'hui que toutes celles et ceux affrontent dans l'addiction, c'est d'être regardé comme des moins que rien et comme des gens qui ont un vice. Or, boire n'est pas un vice, se droguer n'est pas un vice. C'est un chemin qu'on prend à un moment en pensant qu'il va nous emmener ailleurs. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème, il nous emmène ailleurs. Mais,
tout à fait. Le truc, Olivier, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça serait un ami qui serait en train de me parler. Évidemment, je verrais les choses autrement. Tandis que là, c'était mon père, en fait. J'entends ce que vous dites, mais le truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à réaliser.
Oui, complètement.
Surtout quand j'ai eu un enfant et que je me suis dit, mais comment tu peux faire mal
ça, c'est normal,
à des bouts de chou,
c'est normal, Alexandra.
Comment tu peux les frapper comme tu as pu le faire, en fait, être sans vergogne, et puis gâcher tellement de choses, risquer notre vie, parce qu'à l'époque, on ne portait pas de ceinture de sécurité à l'arrière, et puis il y avait beaucoup moins de contrôle, on va dire, au niveau de l'alcoolémie. Enfin, combien de fois t'as failli nous tuer, en fait, et puis, comme je vous dis, j'avais coupé les ponts, et puis... J'ai rencontré une personne, une belle personne, qui m'a, on va dire, réconciliée avec les gens, et puis qui est beaucoup plus âgée que moi, mais avec qui je prends énormément de leçons de vie, d'expérience.
Ouais.
Et il m'a toujours dit, en fait, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Tu ne peux pas rester comme ça sans plus jamais leur parler. Pour moi, c'était clair. Et puis finalement, je lui ai dit, il voulait retrouver mon père, en fait, parce que je savais plus exactement où il était. Et j'ai dit, écoute, d'accord, si tu veux, tu le retrouves. Tu t'assures qu'il ne boit plus. Et à ce moment-là, s'il ne boit plus, effectivement, je reprendrai contact avec lui. Il l'a retrouvé. Et donc, en fait, mon père, à l'époque, était mis sous curatelle et était en hôpital de jour. Quand il l'a vu, Et mon père m'a pas reconnu tout de suite sur la photo. Et puis après, bah, quand il l'a vu, voilà, il s'est mis à pleurer, tout ça. Mon ami, quand il est venu me rapporter tout ça, évidemment, bah, voilà, j'ai quand même un cœur. Hein. Ça reste quand même mon père. Et j'ai dit, bon, bah, ok, voilà, je vais renouer des liens avec. J'ai vu mon père, j'ai eu un choc. Hein. Ça faisait pourtant que 5-6 ans, je crois, que je ne l'avais pas vu, mais c'était plus l'homme que j'avais connu, en fait. Sûr. Il était complètement à l'ouest. Enfin, voilà, je lui parlais, il fallait, on va dire que voilà, toutes les 30 secondes, je disais « papa, papa ». Enfin, plein de choses comme ça. Et puis, quand j'ai vu les médicaments qu'il prenait, mais je me suis dit « waouh, c'est quand même fort ». Et en fait, après, il y a eu les intempéries en Bretagne et mon père s'est retrouvé en inondé. Mais oui. Inondé de chez inondé. Oui. Et donc, voilà, heureusement, un voisin s'est inquiété parce que moi, j'habitais quand même à une demi-heure. Enfin, bref. Et donc après, voilà, je me suis dit, bon, ben, voilà, je peux pas laisser papa comme ça parce que du coup, je suis peut-être très dure, mais en même temps, voilà, quand il y a des choses qui reviennent, ben, si j'aime la personne, ça revient tout de suite. Je me suis dit, bon, on va réfléchir. Moi, je vivais seule à l'époque et donc j'ai proposé à mon père une colocation. Je pensais que ça allait être plutôt sympa, plutôt cool. Moi, je travaille, j'ai des horaires décalés. Et j'ai fait diminuer les médicaments de mon père. Je me suis bataillée aussi avec sa curatrice qui voilà, s'en inquiétait quand elle arrangeait. J'ai bataillé en fait pour qu'on diminue ces médicaments parce que ça devenait folklore. Et finalement, bah, ils ont diminué les médicaments et mon père retrouvait beaucoup plus de lucidité. Donc, enfin, il y avait plein de choses qui ont été sympas, en fait, dans les premières semaines. Et puis après, en fait, quand il a replongé, évidemment, il ne le faisait pas devant moi, il le faisait en cachette. Il planquait. Bon, de toute façon, il essayait d'avoir des cachettes. Mais moi, je m'occupais de mon père. J'avais l'impression d'être presque la femme au foyer. En fait, je travaillais. Et en plus, il fallait que je m'occupe de tout dans la maison, quoi. Et jusqu'à que plusieurs fois. Donc, en fait, mon père, il était à la maison pendant 6 mois. Et puis après, les 6 autres mois, ou entre bien sûr, dans une année, il était à l'hôpital.
Oui.
Donc en fait, et puis du coup, ben fallait que moi, voilà, je me lève la journée pour aller apporter des affaires propres à papa, pour et puis j'en ai rencontré des spécialistes, j'ai dit les choses que je pensais à mon père, voilà, j'ai été très 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 honnête, je vais abréger mes et donc voilà, ça a duré comme ça pendant je sais plus 2-3 ans et au bout d'un moment j'ai dit stop, c'est bon, j'en ai ras le bol. Et donc j'ai vu pour mettre mon père en EHPAD parce que je pouvais plus, parce qu'il pouvait pas s'occuper de lui tout seul, enfin bref. Et je me suis arrangée en plus pour le mettre pas très loin de chez moi, comme ça au moins comme j'avais dit, voilà, ça changera rien, papa, voilà, je viendrai te voir aussi souvent, enfin bref. Et finalement, comme les derniers temps avant de rentrer en EHPAD, donc bien sûr avec son accord, hein, parce qu'au début il était complètement contre. Et en fait, avant, il avait repris l'alcool. Et puis quand mon père a été, on va dire, à mi-chemin entre je me réalcoolise, mais je vais essayer de que ça se voit pas. En fait, c'est l'alcool méchant. Et je vous promets, Olivier, après tout ce que j'avais fait pour lui, il m'a envoyé mes pétés. Il était prêt à me remettre sur la tronche, en fait.
Ah oui.
Et, ouais. Et là, ça a été le coup du spectacle. Et en fait, j'ai repoussé mon père. Voilà, ça a été un peu violent. Je l'ai juste repoussé, hein, parce que je me vois pas, voilà, même avec tout, je me vois pas frapper mon père. Mais et je lui ai dit, mais plus jamais tu vas avoir la main sur moi, je suis plus une gamine. Et puis après tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu me traites comme ça. Donc voilà, donc je suis partie. Et j'ai su qu'en fait, finalement, ben maintenant il boit plus du tout, il est bien heureux dans l'EHPAD et voilà.
Tant mieux, donc, tant mieux. C'est,
oui, tant mieux pour lui.
Génial
oui,
pour lui. Il y est arrivé. Oui. Et j'entends quand vous disiez tout à l'heure faire de la merde. Hein, j'entends ce que vous dites parce que, bien évidemment, vu par les proches, bien évidemment, vous pouvez avoir des comportements qui rendent triste, et certains même font des choses qui peuvent être malhonnêtes, qui peuvent être, vous voyez, ça peut porter à faire des choses terribles. Mais, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et il est certain que certaines personnes estiment qu'il y a une frontière qui a été dépassée à un moment.
Oui.
Et qu'il y a un non-retour. Et je trouve ça dommage parce que celui qui était alcoolique ou drogué ne ressemblera jamais plus à cette personne-là une fois qu'il aura trouvé la sobriété. Plus jamais.
Et Et
souvent, ils sont riches. Hein. Ouais. Souvent, il y a une richesse qui se dégage de ce moment-là.
J'ai toujours dit à mon père, j'ai dit, mais t'es tellement quelqu'un de formidable, en fait. Quand t'es pas alcoolisé, t'es intéressant, t'es... je vous dis, hein, vraiment, tout ce que j'ai pu penser, en fait, et même toutes mes... Voilà, j'ai parlé à mon père aussi. Comment tu nous frappais, tu crois que c'était... Enfin, voilà, j'ai parlé de tout ça. J'ai vraiment crevé les abcès de tout quand mon papa était sobre. Hein.
Oui.
Parce qu'on a toujours eu, malgré tout, une complicité, un truc de dingue, hein, malgré tout. Hein, après, ouais, non, je comprends pas. Maintenant, il fera sa vie sans moi. J'ai été capable de supporter pendant de nombreuses années. Je suis retournée vers lui. J'ai tout essayé, hein, la douceur, la tendresse, il a plein de choses. Hein. Je pense même que dans sa chambre d'EHPAD, il a toujours la belle lettre que j'avais fait pour la fête des pères. Il a préféré pour une connerie en plus, parce que c'était pour sa propre sécurité. Mais personne voulait prendre voulait prendre la responsabilité, en fait.
Oui.
Mais à un moment donné, quand mon père, en fait, il avait trop d'épisodes là, les derniers temps d'alcoolémie, parce qu'il a quand même il est rentré dans un restaurant avec un couteau, il a menacé un mec parce que il l'a juste regardé. Il a voulu frapper le policier municipal.
Vous pourriez énumérer bien évidemment toute la soirée tout ce qu'il a pu faire, mais en tout cas merci mille fois Alexandra pour votre témoignage.
Je voulais juste dire à Madeleine comme vous aviez dit, si la personne ne veut pas s'en sortir, elle ne s'en sortira pas qu'elle ne perde pas de temps, en fait.
Non, et il faut toujours garder de l'espoir. Merci mille fois, Alexandra. Ouais. Je vous souhaite une bonne
nuit. Je vous rappellerai si jamais ça change.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse.
Au revoir, Olivier.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.